Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes lundi 22 juillet 2024. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est l'heure du journal, dont voici d'abord les principaux titres. Quatre personnes ont été tuées hier dans une dispute. La scène macabre s'est passée sur la colline Kigamba, en commune Gisuru de la province Luyigi. On fera le point dans ce journal. Criminalité, c'est aussi sur la colline Lushoka de la commune Tangara en province Ngozi. Un homme a tué sa femme avant de se suicider lui-même. Le couple vivait avec de sérieux problèmes de cohabitation. Aujourd'hui, 22 juillet 2024, ça fait 8 ans jour pour jour que le journaliste Jean-Louis Guilliman du groupe de presse Iwatch est porté disparu. L'Union burundaise des journalistes UBJ demande toujours que la lumière soit faite sur cette disparition et que justice soit rendue pour le journaliste. Voilà pour le sommaire, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Une dispute a viré au drame et a fait 4 morts dans la nuit du dimanche 21 juillet sur la colline de Kigamba, commune de Gisuru, province de Luyigi. L'incident a déclenché des tensions entre les communautés de Gisuru et de Mubanza, poussant les autorités à intervenir. Alors que 2 suspects ont été arrêtés, de nombreux jeunes se seraient réfugiés dans la clandestinité, craignant des représailles. Les précisions avec Evelyne Mukeshimana.
Un drame sanglant a secoué la colline de Kigamba, dans la commune de Gisuru, province de Luyigi, dans la nuit du dimanche 21 juillet. Vers 19h, une dispute a éclaté entre 2 jeunes hommes travaillant dans le secteur minier. L'un, originaire de Gisuru, l'autre de Mubanza, se disputait les faveurs d'une jeune femme. La situation a dégénéré lorsque l'un des rivaux, dans un accès de rage, a poignardé l'autre qui se présentait comme le fiancé de la jeune fille. La victime a succombé à ses blessures à l'hôpital. Dans sa tentative de fuite, l'agresseur a mortellement blessé un autre jeune qui tentait de s'interposer. Ce dernier est également décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. L'incident a provoqué une rixe entre les communautés de Gisuru et de Mubanza, entraînant la mort de 2 personnes supplémentaires. Les autorités locales ont rapidement réagi, se rendant sur les lieux du drame. 2 suspects ont été appréhendés, mais la police poursuit ses investigations pour identifier d'autres complices potentiels. Face à cette situation, de nombreux jeunes de la région, craignant des arrestations, se seraient réfugiés dans la clandestinité.
Et dans la province de Ngozi, ce dimanche, un mari a tué sa femme avant de se donner la mort lui-même. Cela s'est passé sur la colline Lushoka, en commune de Tangara. Les informations en provenance de cette colline et confirmées par l'administration disent que la mauvaise cohabitation entre les 2 époux est à l'origine de ce drame. L'administration de cette commune invite les couples à saisir les services habilités chaque fois qu'il y a eu un différend entre les conjoints au lieu de se faire justice eux-mêmes. Des précisions avec Pierre Garungu.
D'après des informations en provenance du lieu de drame, un homme connu sous le nom d'Eloge Hadjou Hadze, âgé de 45 ans, a tué son épouse glorieuse Ngendakumana à coups de hache. Ce drame a eu lieu vers 14h. Après avoir commis ce forfait, cet homme s'est immédiatement suicidé à l'aide d'une corde. Un de leurs enfants, entré le premier dans la maison, a crié au secours après avoir découvert les corps sans vie de ses parents. Malheureusement, l'arrivée des voisins sur les lieux n'a rien pu changer. Ces mêmes voisins ont fait savoir que ces morts tragiques seraient certainement la conséquence d'une mauvaise cohabitation qui avait déjà atteint son paroxysme chez ce couple. À cet effet, les services administratifs de la commune de Tangara invitent les couples à saisir les services habilités chaque fois qu'il y a de graves différends qui opposent les conjoints plutôt que de se faire justice eux-mêmes.
Merci Thierry Garungu. Hier dimanche 21 juillet 2024, ça faisait exactement 28 ans qu'une attaque armée a été menée par les rebelles du mouvement FDD au site des déplacés de Bugendana dans la province Gitega. C'est une attaque qui a emporté la vie de plus de 600 Burundais de l'ethnie Tutsi. L'association AC Génocide Chilimoso Section Canada, dans sa déclaration, regrette que la justice n'ait pas encore fait son travail jusqu'à maintenant. Emmanuel Murundiza, le secrétaire de cette organisation, constate que l'idéologie génocidaire est encore présente au Burundi et demande encore une fois à l'ONU de mettre en application la recommandation qui requiert un tribunal international pour le Burundi pour punir les coupables. Écoutez.
Nous avons saisi cette occasion pour interpeller en réalité, pour dire toute notre indignation à l'Organisation des Nations Unies pour n'avoir pas mis en application les recommandations du rapport de sa propre commission d'enquête qui, en date du 22 juillet 1996, avait recommandé en son paragraphe 496 la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour le Burundi qui devait justement juger, entre autres crimes, les auteurs, les actes de génocide qui ont été perpétrés contre les Tutsis du Burundi. Et cela est d'autant plus révoltant que, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler, les auteurs de ce crime ignominieux sont aujourd'hui au pouvoir, et ce, avec la bénédiction de l'ONU. C'est en effet l'occasion de rappeler que nulle part au monde, il n'y a d'organisation, il n'y a aucun pays qui soit dirigé par une organisation génocidaire déjà identifiée par une commission onusienne. Et cela, encore une fois, nous a poussé à rappeler aussi bien à l'Organisation des Nations Unies qu'aux acteurs burundais, œuvrant dans le domaine des droits humains, et que toute personne respectueuse de la vie humaine devait être révoltée à chaque instant par le seul fait d'avoir au pouvoir au Burundi une organisation ayant perpétré le génocide. Alors, même s'il vient de se passer 28 ans, nous saisissons de l'occasion pour demander à prendre exemple pour les autres pays. Il y a tout près de chez nous, au Rwanda, et bien l'idéologie de génocide a été complètement tuée des faits parce que les pouvoirs publics se sont prononcés ouvertement, sans équivoque, contre cette idéologie. Il n'est pas question de la considérer comme une opinion politique, comme c'est le cas au Burundi. Nous pourrions aussi prendre, pour exemple, le cas des États-Unis. Alors, même au Burundi, il faut commencer, s'il faut balayer, il faut commencer devant notre case, donc, chasser du pouvoir, pas de voie légale, vous voyez bien, mais s'il le faut, justement, il le faut. Il n'y a nulle part au monde, après qu'il soit dirigé par des génocidaires, on doit s'assurer que ils sont punis.
Dans le chapitre des tristes anniversaires, aujourd'hui 22 juillet 2024, c'est le 8e anniversaire de la disparition du journaliste du groupe de presse Iwachu. Jusqu'aujourd'hui, aucune lumière n'a été faite sur les circonstances de sa disparition. L'Union burundaise des journalistes n'en revient pas. Elle insiste pour demander justice pour Jean-Louis Guilimane et à d'autres citoyens burundais enlevés et disparus dans des circonstances non encore élucidées. On écoute Alexandre Niyungeko, président de l'UBJ.
L'Union burundaise des journalistes, aujourd'hui, encore une fois, nous nous joignons à la famille et au journal, au groupe de presse Iwachu pour lequel il travaillait, pour encore une fois lancer un appel pour la justice à l'endroit de Jean Guilimane. Nous ne désespérons pas, nous continuons à appeler à une justice et nous sommes convaincus que tôt ou tard, la justice reprendra le dessus et ceux qui ont commis ce crime en répondront certainement devant les juridictions et pour que justement justice soit faite. L'Union burundaise des journalistes, on se joint à la famille, on se joint au groupe de presse Iwachu encore une fois pour réclamer justice, pour appeler à la justice, puisque comme on le dit, une justice retardée est une justice refusée.
Inzamba. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, les autorités burundaises sont appelées à se montrer plus sensibles au malheur des Burundais. Dans son homélie de dimanche à la cathédrale Regina Mundi de Bujumbura, l'abbé Viateur Naratazé a dressé le profil d'un bon leader. Il a donné l'exemple du Burundi où le peuple ne cesse de se lamenter de leurs conditions de vie. C'est au moment où certains dirigeants affirment que tout va bien. Pour lui, ces dirigeants ont bien de la chance qu'ils ont affaire à des moutons qui ne mordent pas. Suivez.
Un bon berger doit être guidé par l'empathie, à l'image de Jésus. Quand le troupeau a faim, il se dépêche de le faire manger. Quand il a soif, il se dépêche de le désaltérer. Quelqu'un qui prétend que le troupeau est rassasié alors qu'il a faim, quelqu'un qui prétend que le troupeau n'a pas soif alors qu'il est déshydraté, celui-là ne mérite pas d'être appelé berger. Il doit plutôt démissionner. C'est un mercenaire. Il y a des gens qui sont devenus insensibles, qui n'ont pas pitié des moutons affamés ou assoiffés. Pour eux, pourvu qu'il ne leur manque rien, ils sont malheureux. Par exemple, pour notre pays, le Burundi, quelqu'un qui regarde les gens faire la queue du matin au soir à la recherche de ceci ou cela et qui continue de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, est-ce que le troupeau serait content? Il a de la chance que les moutons ne sont pas des carnivores, ils le mordraient. Quelqu'un qui observerait bien les choses où ceci est devenu cher, cela est problématique et qui continue de dire que tout se passe bien parce qu'il ne lui manque rien, ce n'est pas un bon leader. Un bon berger se préoccupe de son troupeau pour le bonheur et dans le malheur, pour le rendre heureux. Il les écoute, il dialogue.
Page sportive pour boucler ce journal. Au basketball, le championnat national se poursuit. Jusqu'à présent, seul le club Runani n'a enregistré aucune défaite. Et le ministre ayant le sport dans ses attributions annonce un intérêt ouvert au département des sports pour le début de l'année prochaine 2025. On fait le point avec Alexandre Niungeko.
Ce dimanche, New Star a surpris les amateurs du ballon orange dans un match de revanche en battant les Hippos par 78 à 63 points. Balade de santé de Dynamo face à Gymkhana avec un score à 3 chiffres, soit 100 à 48. Les Mesa a battu Taigas par 71 à 60 points et Orunali s'est imposé sur Kern par 99 à 61 points. Samedi, Dynamo a battu facilement Kern avec toujours un score à 3 chiffres, soit 102 à 44. Les Mesa s'est imposé sur New Star, 62 à 50 points. Succès du club Les Hippos face à Gymkhana avec un score de 70 à 63 points, tandis que Runani est venu à bout de Taigas par 79 à 69 points. Il est à noter que Runani est toujours leader du championnat sans aucune défaite, suivi de Dynamo qui enregistre jusqu'à présent une défaite face à Runani. Toujours au basketball, les travaux de réhabilitation du terrain du département des sports démarrent avec le mois d'août prochain pour être clôturés avec le mois de décembre 2024. L'annonce a été faite jeudi par le directeur général ayant le sport dans ses attributions, Samuel Niyubawe, qui a précisé qu'il s'agit dans un premier temps de la toiture avec un budget de 600 millions de francs burundais, financé totalement par l'État burundais, et le tapis synthétique exigera des sponsors, notamment par la FIBA, la Fédération Internationale de Basketball Association.
Voilà, c'est par ces nouvelles sportives que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Nzambakatikakawe. Au revoir et à la prochaine.